Épilogue. La convalescence d'Agatha fut longue. Au début, comme elle parlait à peine, tous s'inquiétaient qu'elle ait des lésions cérébrales. Mais lorsque Tony amena ses deux chats en douce à l'hôpital et les posa sur le lit de la malade, elle les caressa, les cajola et son visage s'anima lentement. Bientôt, les jours se transformèrent en semaines et le printemps se réinstalla dans les Cotswolds. Agatha se rendit alors compte que l'idée de reprendre le travail lui était insupportable. Dans son jardinet de devant, le lilas, qui donnait son nom à l'allée, ployait sous le poids de ses fleurs. Le cottage de James avait été remis en état, mais d'après la rumeur, il voyageait toujours à l'étranger. Par une journée ensoleillée, Agatha se prélassait sur un transat dans son jardin lorsque Charles fit son apparition.
« Mais c'est que tu es en pleine forme, moi qui croyais que tu t'étais transformée en zombie. Je suis passée à l'agence et ils m'ont dit que tu étais encore convalescente. Peut-on savoir pourquoi tu n'es pas au travail ?»«
J'envisage de ne pas reprendre. »«
Pourquoi ça ?»«
J'ai perdu mon enthousiasme. » »«
Voilà une fin digne d'un roman de 4 sous. Tout va bien. Jock est mort et Josie et Tracy Fawkes ne peuvent pas se plaindre du vol de l'argent. Sinon, elles seront accusées d'avoir fraudé le fisc. De toute façon, elles sont derrière les barreaux. Mais ce n'est pas pour parler de ça que je suis venue. Cet après-midi, c'est la grande première de mon fantôme. Je veux que tu sois là. Gustave n'est pas passé te voir ?
Si. Il m'a rebattu les oreilles de ses histoires de presse. Et Agatha, il faut les appeler. Et blablabla. Je l'ai envoyé promener. Il n'a qu'à le faire lui-même. Je lui ai donné une liste de contacts.
J'ai besoin que tu viennes. Si c'est un fiasco, tu pourras nous dire où on a mal fait. Et va te maquiller, bon sang. J'ai l'impression de t'avoir perdu. Je préférais l'ancienne Agatha. Fais-la revenir.
Agatha monta à la salle de bain et se regarda dans le miroir. Elle avait un air fatigué et égaré. Elle portait une robe d'intérieur délavée et des sandales plates. Ses jambes n'étaient pas épilées. Elle se rasa, enfila une culotte confortable, des collants noirs et une petite jupe qu'elle associa à un chemisier blanc. Elle compléta l'ensemble avec des chaussures ouvertes à talons hauts. Elle grimaça, se demandant comment elle avait pu porter de telles échasses du matin au soir. Elle mit du fard à joues et du rouge à lèvres d'un rose éclatant.
« Salut Agatha, contente de te revoir !»
dit-elle à voix haute en adressant un sourire réticent à son reflet. Puis elle rejoignit Charles. Lorsqu'elle arriva au manoir une heure avant l'ouverture au public, elle inspecta les lieux, pièce après pièce, et demanda qu'on ajoute des bougies.
« C'est trop lugubre. Ils vont filer ou se cogner dans les meubles, tes visiteurs. Où se trouve le bar pour la presse ?»«
Je ne savais pas qu'il en fallait un. Ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent, pas en dépenser. »
« Qui dit journaliste alcoolisé, dit journaliste heureux. À l'inverse, quand ils ont soif, ils sont grincheux. Et ça, c'est très dangereux. »«
Bon, d'accord. » Gustave, installez un bar dans le boudoir.
Je me demande pourquoi j'aimais tant les relations publiques, se dit Agatha à l'ouverture des portes. Les pieds meurtris, elle traversa les pièces de réception en quête d'un coin tranquille où s'asseoir. Elle décida de tenter sa chance dans celle qui avait la faveur de Charles, la bibliothèque dont l'accès serait interdit aux visiteurs. Elle se laissa tomber dans un fauteuil. Ah, Charles, il avait recommencé. Il lui avait fait l'amour sans lui dire le moindre mot d'amour. Pourquoi appeler ça faire l'amour? Autant parler de Ruth, non? Se morfondit-elle avec amertume. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer un petit vent frais. Agatha retira ses sandales et remua les orteils. Elle s'assoupissait juste lorsqu'elle entendit un murmure s'élever quelque part derrière elle, un murmure qui scandait
« La mort approche, Agatha. » La mort et les flammes de l'enfer.
Puis des marmonnements incompréhensibles. Bon, ce n'est pas drôle du tout. Elle se baissa avec un grognement pour remettre ses sandales.
Charles, je suis fatiguée, je rentre chez moi.
Elle se leva et laissa échapper un cri de surprise. Vêtue de longues robes noires ornées de soleil, de lune et d'étoiles, le visage maquillé de vert, Josie et Tracy la regardaient d'un air mauvais.
Eh bien, qui a lâché les chiens?
« Préparez-vous à mourir !» annonça Tracy d'une voix gémissante. « Nous allons invoquer le maître !»«
Votre maître n'était autre que Benjamin Gentry et il s'est pendu dans sa cellule !»«
Nous invoquerons Satan en personne cette fois !» fredonna Josie.
Agatha aperçut un ancien bouton de sonnette près de la cheminée et se demanda s'il fonctionnait toujours. Mais même si c'était le cas, il n'y aurait personne dans les communs pour entendre la cloche qui y était reliée. À moins qu'il y ait une cuisinière ou une femme de ménage. Elle pressa le bouton énergiquement. Dans les cuisines, Mrs. Jordan, employée de maison, sirotait une bière tout en occupant sa fillette Bella. Elle entendit la cloche teintée médusée.
« J'y crois pas. Ça doit être Sir Charles. Qui d'autre ? Quel culot ! On n'est pas au Moyen-Âge ! Eh bien, il va m'entendre. C'est moi qui te le dis. C'est Gustave, son toutou, pas moi !»
Agatha sentait la peur monter. Josie avait sorti des plis de sa robe un impressionnant couteau avec lequel elle traçait des formes dans les airs. Soudain, la porte s'ouvrit, laissant apparaître la maigre silhouette de Mrs. Jordan. Elle dévisagea Josie, bouche bée, puis se mit à rire.
« Oh, vous faites partie de la mise en scène !»
Elle tourna les talons et claqua la porte derrière elle avant qu'Agatha puisse appeler à l'aide. Cette dernière profita néanmoins de ce que Josie et Tracy avaient tourné la tête pour se hisser sur le rebord de la fenêtre, se débarrasser de ses sandales et sauter dehors. Elle courut aussi vite qu'elle put jusqu'à ce qu'elle tombe sur un jardinier à qui elle cria d'appeler la police. Cette première journée d'ouverture au public dépassa les espérances de Charles. Comme il s'y attendait, le fantôme fit l'objet d'un papier dans tous les journaux locaux, mais grâce à la tentative d'agression sur la personne d'Agatha, la presse nationale s'empara de l'affaire. Le procès des Fawkes avait été avancé, et à la suite de la plaidoirie d'un psychiatre bien intentionné mais quelque peu naïf, Josie et Tracy n'avaient-elles pas simplement été détournées du droit chemin? Elle s'en était sortie avec une peine de travaux d'intérêt général. Quand Agatha eut répondu aux questions de la police et de la presse, elle se réfugia chez elle avec Charles.
« C'est l'heure des informations de 18h »,
annonça Charles en allumant la télévision. Les faits furent rapportés de manière très succincte dans le journal national.
« Attendons de voir l'édition régionale », dit Agatha. « Ils vont en parler, c'est obligé. » Pourvu que les sorcières n'éclipsent pas notre fantôme, on a besoin de cette publicité. Oh non, il n'y en a que pour Josie et Tracy.
Regarde, c'est Gustave !
S'écria Charles. Le journaliste le présenta comme le majordome de Sir Charles avant de lui demander son sentiment sur l'agression d'Agatha.
Oh, cette femme se fait tout le temps agresser, dit-il avec dédain.
Salaud !
Hurla Agatha devant sa télévision.
« Mais le manoir est maudit !» poursuivit Gustave. « Je vous le dis, et les visiteurs qui sont derrière moi pourront vous le confirmer. Le fantôme de Cater Thompson est apparu cet après-midi. La légende affirme que son apparition annonce un meurtre. »
Il raconta alors la vie de débauche menée par Cater, prenant une voix aussi lugubre que Lurch dans la famille Adams.
« Il devrait faire du théâtre !» commenta Agatha.
« Son petit numéro va te permettre de faire payer l'entrée. Tu vas vite remplir les coffres. »
« Toi aussi, avec toute cette publicité ?»« Agatha Raisin résout un nouveau crime qui a mis la police en déroute. »«
Je t'assure que les meurtres à l'avenir, ils devront les résoudre eux-mêmes. J'arrête, je laisse l'agence à Tony. »«
Mais ma grande, tu vas mourir d'ennui. Comment vas-tu t'occuper ?»«
Je vais peut-être me marier. »«
Tu nous aurais caché un fiancé ?»«
Il s'appelle Arthur Allen, banquier. Mon âge, mais très en forme. »
Et pourquoi n'ai-je jamais rencontré ce soupirant ?
J'y ai veillé, figure-toi. Quand tu as mis ton grain de sel dans mes histoires d'amour par le passé, ça a tout fichu en l'air.
Juste avant que ton soi-disant prince charmant te tue la plupart du temps. Qu'a-t-il de spécial, celui-ci ?
Rien.
Déjà marié ?
Non.
Agui, si un homme de ton âge est en pleine forme et n'a jamais été marié, c'est qu'il est gay.
Loin de là !
Je m'en vais. Dit Charles d'un ton brusque. « Ne te donne pas la peine de te lever !»
Agatha fit quelques pas dans son jardin avec ses chats sur les talons avant de se laisser tomber sur un transat. Si seulement Arthur n'existait pas que dans son imagination, songea-t-elle. « Épouse-moi !» Voilà ce que Charles aurait dû lui dire. « Je le déteste !» La sonnerie stridente du téléphone sans fil abandonné sur la table de jardin se fit entendre. C'était Mrs. Blugsby. J'organise un petit dîner au presbytère ce soir pour souhaiter la bienvenue à un nouveau venu. Je crains que les villageois ne lui réservent un accueil peu chaleureux à cause de son métier.
Qu'est-ce qu'il fait ? Journaliste ? Politicien ?
Non, il est banquier chez Midland and West. Dites-moi que vous en êtes.
D'accord, comment s'appelle-t-il?
Mr. Arthur Andrews.
Agatha émit un petit rire. Mr. Allen, ça aurait été trop beau, n'est-ce pas?
De quoi parlez-vous?
Je vous raconterai. C'est à quelle heure?
Venez pour l'apéritif, 19h.
Agatha avait informé Tony de son intention de passer la main, et de fait, elle ne travaillait qu'un ou deux jours par semaine. Tandis qu'elle choisissait soigneusement ses vêtements pour le dîner de Mrs. Blugsby, elle se laissa envahir par un agréable sentiment d'impatience. À quoi ressemblerait cet Arthur? Elle hésita un instant en sortant un long manteau de soie écarlate brodé de dragons dorés, trop extravagant, mais décida de l'associer à une robe en mousseline de soie noire toute simple avec des bas noirs extra fins. Des chaussures à talons hauts vinrent compléter sa tenue. Elle se maquilla et mit une touche de haute couture de Givenchy. Parfait. Craignant d'emprunter les rues pavées avec ses talons hauts, elle se rendit au presbytère voisin en voiture. L'air du printemps était doux. Les forsythias dorées et les jonquilles étincelantes s'invitaient déjà dans les jardins. La certitude que son existence ne serait plus jamais le théâtre d'aucun crime l'emplit d'une rare sensation de paix. Elle descendit de voiture et entendit chanter un merle perché sur le toit du presbytère. Un chant si beau qu'il en était envoûtant. Elle sonna et suivit bientôt Mrs. Blugsby dans le salon où elle balaya les invités du regard. « On passe du beau au lait sans transition », murmura-t-elle. Car parmi les invités qui se levaient pour la saluer, un seul lui était inconnu. Le banquier, à n'en pas douter. Il était petit, trapu, avait le menton bleu et d'épais sourcils noirs.
« Je vous présente Mr. Alberton, » dit Mrs. Blugsby.
Soulagée, Agatha demanda discrètement.
« Où est donc le nouveau venu ?»« Il n'est pas encore arrivé. Je pense que vous connaissez les autres. »
Deux couples mariés. La sonnette retentit. Agatha s'assit de sorte que son manteau de soie révèle ses longues jambes magnifiées par ses bas noirs. Charles entra et haussa les sourcils en voyant l'air déçu qu'arborait Agatha. Après réflexion, il était convaincu qu'elle avait inventé ce banquier de toutes pièces. Tandis qu'il faisait le tour des invités pour leur serrer la main, on sonna de nouveau. Mrs. Blugsby revint avec un homme d'âge mûr, doté d'un agréable visage aux traits carrés et d'une épaisse chevelure grise. Avant même que Mrs. Blugsby le présente, Agatha dit « Contentons-nous des prénoms, c'est si difficile de se rappeler qui est qui. » Pour Charles, le nouveau venu était donc Arthur. Mrs. Blugsby pria ses convives de passer dans la salle à manger à présent qu'ils étaient au complet. Agatha s'étonna de l'absence du pasteur, mais en fut soulagée quand elle vit que le banquier était placé à côté d'elle et Charles à l'autre bout de la table. Car Alf Blugsby, qui ne la portait pas dans son cœur, aurait pu être un obstacle au numéro de charme auquel elle comptait bien s'adonner. Agatha eut toutes les peines du monde à tenir en place, tandis qu'Arthur s'entretenait avec son autre voisine, Mrs. Dawson. Elle essaya néanmoins d'entamer la conversation avec le vieux monsieur tout ridé assis près d'elle, mais il était sourd comme un pot. Au bout d'un moment, Arthur se tourna vers elle. « Voici enfin l'occasion pour moi de rencontrer la célèbre détective locale. »«
Et moi un beau banquier, » répondit-elle en battant de ses longs cils.
Malheureusement, elle portait des extensions qui menaçaient de tomber côté droit. Elle bredouilla une excuse et s'éclipsa dans la cuisine où Mrs. Blugsby sortait juste son rôti du four.
« Vite, de la colle !» fit Agatha d'une voix haletante.
Sur quoi la femme du pasteur ouvrit un tiroir et lui tendit un tube. Agatha s'isola dans la salle de bain et refixa l'extension récalcitrante. C'est alors qu'elle remarqua que la colle, extra forte spécial métal, pouvait supporter des charges lourdes.
« Bon sang !» songea-t-elle paniquée. « Allait-elle devoir aller à l'hôpital pour se faire retirer ses fossiles ?»
Elle retourna à table. Charles découpait un beau gigot avec doigté, déposant une tranche dans chaque assiette avant de les faire passer. « Tout va bien, Agatha ?» demanda Arthur. « Vous avez l'œil tout rouge. » Agatha se rendit à l'évidence. Séduire Arthur pour essayer de rendre Charles jaloux ne valait pas la peine de perdre un œil. Aussi, elle lui avoua la vérité. Peut-être Mrs. Blugsby a-t-elle du dissolvant? Ça m'étonnerait. Mais Arthur alla chuchoter à l'oreille de leur hôte, qui hocha la tête et quitta la pièce pour bientôt revenir avec un flacon de dissolvant. Arthur l'empocha et s'approcha d'Agatha. Allons donc dans la salle de bain. Je vais vous arranger ça en deux temps de trois mouvements.
Charles les regarda s'éloigner et demanda
« Aggie a un souci ?»«
Mrs. Raisin a quelque chose dans l'œil. Passez-moi la sauce à la menthe, Sir Charles. »
Ce dernier commença à se lever, mais le ton sévère de Mrs. Blugsby le coupa net dans son élan.
« Servez-moi une autre tranche de gigot, je vous prie. »
Dans la salle de bain, Agatha, débarrassée de ses extensions et de la colle, sourit à Arthur et plaisanta.
« Mon héros !»«
Ravi d'avoir pu vous aider, gente dame. »
Il la prit dans ses bras, déposa un baiser mouillé sur ses lèvres avant de glisser sa grosse langue dans sa bouche et sa main sous sa jupe.
Agatha recula et lui asséna une tape sur la main. « Qu'est-ce que vous faites ?»«
C'est que j'ai visité ce manoir hanté dans le Warwickshire et il y avait ce type qui m'a dit que vous étiez chaude comme la braise et que vous aimiez bien vous faire chahuter. »«
Quel type ?»«
Celui qui organise les visites, le propriétaire. »«
Eh bien, c'est totalement faux !»
s'exclama-t-elle tout en rageant.
« Oh Charles, comment as-tu pu ?»«
Vous m'excuserez auprès de Mrs. Blugsby, » reprit-elle avec raideur.
« Non, laissez-moi !»
Agatha rentra chez elle, enfouit la tête dans le pelage de ses chats et pleura toutes les larmes de son corps. Comme il était vain de se laisser aller à des rêves idiots de retraite en couple, ses pantoufles à côté de celles de son homme. Elle qui espérait représenter plus qu'une nuit par-ci par-là aux yeux de Charles.
Quand elle sécha enfin ses larmes, elle annonça au chat « Demain, je reprends mon travail à plein temps. »
Lorsque les invités de Mrs. Blugsby s'installèrent au salon pour prendre le café, Charles s'approcha d'Arthur.
« Pourquoi Agatha est-elle partie ?»«
Ce n'est pas ma faute, »
répondit-il en rougissant. Elle avait l'œil rouge après avoir utilisé de la colle extra forte pour recoller ses fossiles. J'ai suggéré d'utiliser du dissolvant pour enlever le tout. Ça a marché d'ailleurs. Et elle était aguicheuse, alors moi, j'ai cherché à l'embrasser et là, madame monte sur ses grands chevaux. Je croyais que ce serait dans la poche avec elle. Le propriétaire de Barfield House m'a dit qu'elle ne demandait que ça.
C'est moi, le propriétaire de Barfield House. Décrivez-moi l'homme à qui vous avez parlé.
Grand, les cheveux grisonnants, un léger accent.
C'est bon,
interrompit Charles.
Mrs. Blugsby, c'était une soirée très agréable, merci, mais je dois filer, j'ai quelqu'un à voir et une bonne correction à donner.
Charles entra sans bruit dans le cottage d'Agatha à 6 heures du matin. Sous ses bandages, ses mains lui faisaient mal. Il regrettait d'avoir frappé Gustave si brutalement. Son majordome, assis le dos voûté, ne s'était pas défendu, répétant simplement qu'Agatha n'était pas une épouse convenable pour lui. Charles lui avait intimé l'ordre de faire ses bagages et de débarrasser le plancher. Renvoyer. Mais à peine Gustave avait-il tourné les talons que Charles pensa à tout le travail qu'il abattait, sans parler du succès qu'il rencontrait avec le fantôme. Aussi, il le rattrapa et lui redonna son poste. Il trouva Agatha allongée sur le dos, en train de ronfler, le visage rougi par les larmes. Il lui secoua l'épaule et alluma la lampe de chevet. Elle le regarda d'un air endormi, puis se mit à crier de rage. Charles lui bloqua les mains et lui demanda de l'écouter.
« Gustave ! Je vais le tuer !»
dit Agatha, après avoir entendu le récit de Charles.
« Oh, tes mains ! Tu t'es battue avec lui ?»
Charles décida alors qu'un mensonge ne pouvait pas faire de mal.
« Oui, pour ton honneur, » répondit-il vivement.
« Tu aurais dû comprendre que c'était Gustave qui avait parlé à ce banquier !» Ou me poser la question, as-tu une si piètre opinion de toi-même que tu es prête à croire qu'un de tes amis puisse dire de telles horreurs sur toi? Allez debout, enfile quelque chose, je t'emmène prendre un vrai petit déjeuner.
Après avoir englouti un énorme petit déjeuner et bu 3 tasses de café, Agatha se sentit réconfortée. J'aurais dû prendre Sir Edward avec moi pour jouer les détectives, mais c'était trop dangereux. Pauvre vieux, coincé tout seul à Cuckleton, la vie doit lui paraître ennuyeuse.
Sir Edward avait en effet sombré dans une profonde dépression. C'était une journée maussade et froide, le jardin était couvert de gel. Pourquoi diable avait-il pris la décision de s'installer dans ce trou? Il entendit le bruit caractéristique du courrier qui tombe sur le sol dans l'entrée. Il se leva péniblement pour le récupérer, et tandis qu'il l'ouvrait... des factures, rien que des factures, maugréa-t-il. Au fond de la pile, une enveloppe gaufrée. Il la décacheta et laissa échapper un cri perçant. On venait de lui accorder une pairie.
Dorénavant, ce serait Lord et non plus Sir. Vite trouver un titre, un blason, des tenues. Oh, c'était tout bonnement incroyable.
C'est tout bonnement incroyable, se plaignit l'homonyme de Sir Edward Chumble à sa femme.
Quand je pense aux sommes que j'ai versées au gouvernement dans l'espoir d'obtenir une pairie, ils encaissent mais ne donnent jamais rien en retour.
Tu me ramènes chez moi? Je vais récupérer ma voiture et aller à l'agence.
Je croyais que tu arrêtais de bosser.
Je le croyais aussi, dit Agatha en allumant une cigarette sur le parking.
Pareil pour la cigarette. Tu sais, Charles, je n'oublierai jamais ce que tout le monde m'a dit quand mon mariage avec Jimmy battait de l'aile.
À savoir?
Les carrières dures. Les hommes, non.
Tu m'as toujours, moi.
Oui, dit-elle. Tous les deux, nous sommes...
Une petite lueur d'espoir passa dans les yeux d'ours d'Agatha. Charles hésita un instant, puis lança sur un ton léger.
Ami!
Caché dans un massif au bout de l'Isle Klein, Simon vit Charles s'éloigner en voiture. Il était venu pour avouer à sa patronne qu'il avait menti à propos de Molly. Quand il lui avait fait des avances, elle avait ri et lui avait dit de déguerpir en lui ébouriffant les cheveux. Sur quoi il s'était rendu dans une maison close conseillée par un ami où il avait demandé une fellation. En repartant, il s'était senti sale. Mais Agatha avait l'air si sombre. Un autre jour, peut-être. Agatha rentra chez elle. Il était midi. Charles et elle avaient passé la matinée à parler de l'affaire. Dans le salon, elle regarda le chariot à boisson tandis que les chats se frottaient contre ses chevilles.
« Ma foi, un gin tonic bien corsé vaut tous les hommes du monde !»
Vous venez d'écouter Agatha Raisin Enquête, tome 28, Chasse aux sorcières de M.C. Beaton, lu par Françoise Carrière. Une production Audible Studio.